Il y a des endroits en France où les pro-AKP sont forts.
J'ai voté Tayyip Erdogan.
L'idée, c'est d'aller voir ces gens-là et de leur dire il y a aussi une autre alternative, c'est celle de la démocratie en Turquie, c'est celle de créer un autre système politique en Turquie.
Pour certains médias, si c'est un dictateur, j'adore ce dictateur.
Il faut la liberté et la paix d'urgence en Turquie.
Bonjour à tous. Ce dimanche, les 55 millions d'électeurs turcs sont appelés aux urnes pour élire leur président et les 600 députés de la Grande Assemblée, la seule assemblée parlementaire du pays. L'actuel président Erdogan est le grand favori pour sa propre succession, même si les sondages indiquent qu'il pourrait être contraint à un second tour le 8 juillet. Le président élu aura des prérogatives élargies puisqu'il sera aussi chef du gouvernement, la fonction de Premier ministre ayant été supprimée. Il y a 2 ans, une tentative de putsch avait entraîné, outre le limogeage de 110 000 fonctionnaires, policiers, enseignants, magistrats, la fermeture de plusieurs médias et l'incarcération de dizaines de milliers de personnes soupçonnées d'être en lien avec la tentative de coup d'État. La communauté turque de France a voté entre les 7 et 19 juin. Quelques 500 000 personnes qui ne sont pas à l'abri d'une certaine influence de l'actuel gouvernement d'Ankara. Historiquement, le vote des Turcs de France est favorable au président Erdogan. Élection turque, une diaspora sous influence, c'est un reportage de Nasser Maggi.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Correspondance pour les destinations de l'Argentière-les-Écrins, Valenciennes, Gap. Par autocar à la gare routière Travéage, départ immédiat.
Il y a quelques semaines, l'élection turque s'est invitée en France à l'occasion d'une controverse déclenchée par le magazine Le Point. Sur la couverture de cet hebdomadaire, une photo pleine page du président Erdogan, en légende, le dictateur. Conséquence, dans plusieurs villes de France, des vendeurs de journaux ont été intimidés, voire menacés, par des soutiens du Reis, comme on l'appelle. Je suis retourné dans une de ces communes, à Valence, dans la Drôme.
Ils sont arrivés le samedi matin, à 6h30 du matin. Ils étaient deux, de type méditerranéen, bien sûr. Ils sont rentrés comme des fous. Ils m'ont menacé verbalement, en me disant qu'il fallait que je retire les affiches.
Donc, les affiches où il y avait la photo d'Erdogan, du point.
Erdogan sur le dictateur. Et donc je leur ai dit que non et que je n'avais pas les clés, quoi. C'était pas dans mon pouvoir, et puis il y avait une liberté de presse en France. J'ai refusé. Ils m'ont dit on va revenir. Ils sont revenus vers les 4h ou 5h de l'après-midi. Ils sont revenus et là ils étaient 7. Toujours pareil, très menaçant.
C'était quoi leurs arguments entre guillemets
L'argument c'est que Erdogan n'est pas un dictateur. Donc pour eux, il est. Ce que la presse française. Raconte, bah c'est un peu des bobards, quoi. Je leur ai tenu tête, comme quoi je n'avais toujours pas les clés. Par contre, ils sont revenus le soir, à 19h, et là, ils étaient une quinzaine. Et là, bon, sous la pression, étant tout seul, j'ai ouvert les panneaux et j'ai enlevé les affiches.
Vous avez essayé d'échanger avec eux ou pas?
D'échanger,
de parler, de...
Bah, non, ils ne voulaient rien savoir, ils sont bornés, ils sont endoctrinés. Voilà. C'était indiscutable.
Ça va ? Vous allez bien ?
Un fétiche 7.
Combien ?
Fétiche 7.
Merci.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, que vous vendez des journaux ?
7 ans. 7 ans que j'ai fait la création de ce kiosque.
J'imagine que ce genre... d'aventure ou de mésaventure, ça vous est jamais arrivé ?
Bah non, sachant que j'ai tenu un bureau de tabac 7 ans aussi, il y a une vingtaine d'années. Donc, non, ça m'est jamais arrivé et c'est très, très choquant. Mm. Très choquant.
J'imagine que quand on vend des journaux, enfin, comme nous tous, on est attaché à la liberté de la presse,
exactement,
notamment.
Ouais. Puis nous sommes en France, donc on n'a pas à faire ce genre de choses. Hein. Qu'ils fassent ça chez eux, je veux bien, mais. C'est leur problème, mais pas en France. Quoi.
Pour vous, c'était pas quelque chose de spontané ?
Non. Non, non. Puis bon, il y a les réseaux sociaux, donc tout le monde en a parlé. Donc ouais, je pense que ça a fait boule de neige, parce que ça s'est produit ailleurs aussi en France. Hein. Je crois qu'il y a eu 4 agressions en France. Mm. C'est très, très choquant. Très choquant, voilà.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Bonjour. Bonjour. Je suis bien à l'association franco-turque.
Oui.
Ah, très bien. Je cherche monsieur Akboulou.
À l'intérieur.
À l'intérieur. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Ah, ça va. Bonjour, Nasser Madji. Enchanté.
Enchanté, très bien.
Très bien.
Vous voulez qu'on se mette au bureau d'abord?
Ouais, je veux bien, ouais. Bon, ça, c'est votre bureau de président de l'association.
Pas de président, le bureau du bureau, on va dire.
Le bureau du bureau, voilà, d'accord, de l'association. Bon, d'accord. On va s'asseoir, on est donc dans une arrière-salle, un bureau, avec le drapeau de la Turquie,
oui,
en grand.
Exact.
C'est important.
Oui, c'est important. Alors, on met toujours les deux drapeaux, je ne sais pas si vous avez fait attention aussi à l'entrée. Là, c'est juste que, en fait, il sert un peu de stockage. Sinon, en général, quand on fait des activités, on met toujours les deux drapeaux. Parce qu'on est avant tout citoyen français. Je suis moi-même citoyen français, né en France, et j'ai 40 ans, mes enfants sont scolarisés ici. Donc aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance à cette double culture. Et c'est pour ça qu'on veut toujours le symboliser avec les deux drapeaux, en fait.
C'est un lieu de culte, c'est un lieu festif, également associatif. Est-ce qu'on discute aussi de politique ?
Bien sûr. Ça, c'est le sujet aujourd'hui que même tout le monde parle. Et on le fait, mais sans contrainte. Chacun a son opinion. C'est une association aussi qui est reliée aussi à un organisme qui est complètement, on va dire, il y a différentes pensées. Il peut y avoir des pensées de droite, de gauche, mais tout le monde, tout le monde se rend compte sans qu'il y ait des débats un peu agressifs. Hein. Peut-être que M. Assanta, je voulais peut-être dire quelques mots sur la partie politique ou non ?
C'est votre vice-président qui est là juste à côté. Présentez-le nous alors.
Moi, c'est M. Assanta Selami. J'ai 47 ans. Les lieux là que vous voyez, ils ont été achetés à ma présidence. Sur tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas un centime du contribuable. Ça, je tiens à le dire, que les gens le sachent. On n'est pas association pour prendre de l'argent à la mairie.
On a une vision toujours d'évoluer et toujours dans le sens de la République française, c'est-à-dire toujours en respectant les principes fondamentaux. Ça, c'est très important. On a notre culture, on a notre religion, mais on respecte toujours les principes de la République française.
Vous avez raison de préciser ça, oui. Monsieur Akboulut, parce que je suis venu aussi pour parler politique et parler, comme vous le savez, de l'élection en Turquie. Il s'est passé quelque chose à Valence qui est sorti justement du droit français et du respect de la liberté d'expression. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Akboulut ? C'est l'histoire avec ce pauvre vendeur de journaux qui s'est fait agresser par des franco-turcs.
Ça, c'est le mot que beaucoup de gens veulent entendre. Agression, c'est si je vous mets une claque ou je vous mets contre un mur ou je vous fais tomber, un contact physique. Mmh. Moi, j'étais au courant de ce qui allait se passer. J'ai dit mon opinion, j'ai dit non, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Mais je ne permettrai à personne de dire ce mot-là parce que j'ai suivi l'affaire tout le temps, et il n'y a eu aucune agression. Peut-être qu'il a été traumatisé parce qu'il y a eu des...
Il l'a mal vécu, je peux vous le dire.
Voilà, il a peut-être mal vécu, mais il ne faut pas aller aussi à dire qu'il a pris des jours d'arrêt, des trucs comme ça. Moi, personnellement, je pense que la presse s'exprime trop en France, comme elle veut. Par exemple, moi, j'ai voté pour Tayyip Erdogan. En affichant le poster de mon président contre la vitre de ce kiosque, c'est m'insulter moi en tant que citoyen turc en disant vous êtes des imbéciles. Mais c'est une personne qui a été élue avec 52% d'électeurs. Est-ce qu'on peut appeler ça un dictateur ? Ok, si pour certains gens, pour Le Point, pour certains médias, si c'est un dictateur, j'adore ce dictateur. Pourquoi j'adore ce dictateur ? Parce que ce dictateur fait avancer son pays. Le Point fait chier, fout sa merde. Charlie Hebdo fout sa merde. Et on appelle ça le droit d'expression. Eh bien, bravo.
On va revenir sur notre vendeur de journaux 2 minutes.
Oui.
Si vous voulez bien.
Bien sûr.
S'il n'a pas été agressé physiquement, il a été intimidé.
Ça, vous pouvez lui dire.
Et ça, c'est pas. Est-ce que c'est normal de voir
c'est
ça
pas
en
normal.
France?
C'est pas normal, puisque au début, je vous ai dit que j'étais pas d'accord que les jeunes descendent en ville. La liberté de la presse, il faut qu'elle y reste. Mais il faut que la presse soit aussi une presse, quoi. Il faut pas que ça soit des provocateurs. Il faut pas que ça soit de. Il faut pas que ça me touche mon âme sensible, quoi.
Je crois que vous êtes trop sensible, hein. Et vous êtes fier de voter Erdogan?
Moi, personnellement, je suis fier. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc. Ça fait 40 ans que je suis en France. Je suis arrivé en 78. Mes premières vacances, ils ont été en 81. Quand je suis arrivé à la douane de la Turquie, j'ai mis un jour pour aller de la douane à 250 km à Istanbul. J'ai mis un jour. Aujourd'hui, je mets, vous savez combien? 1h30. Ce type a fait tellement de bonnes choses qui a soulevé le peuple turc, l'économie turque, la Turquie en elle-même. Eh ben, je ne sais pas, ça dérange beaucoup de gens. Moi qui vis en Europe... Ce n'est
pas ça qui dérange, monsieur. C'est tout le monde sait que M. Erdogan a fait rentrer la Turquie dans la modernité.
Oui.
Ça, personne ne dit le contraire, mais il a enfermé 50 000 personnes.
Ah oui.
Des journalistes, des magistrats, des policiers, des universitaires.
Vous êtes journaliste. Demain... Vous publiez un truc qui nuit à la sécurité de l'État français.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous laisser le tranquille? Macron, il va pas envoyer ses gars pour venir vous chercher? Dites-moi la vérité.
Moi, ce que je vous dis, c'est
la vérité.
Ce que je vous dis, c'est que 150 journalistes en prison, ça fait quand même beaucoup, quoi.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ça se peut que ça fait beaucoup, mais aujourd'hui, 150 journalistes, vous êtes allé voir ces journalistes? C'est qui ces journalistes? Aujourd'hui, il y a 2 ans de ça, on a eu un coup d'État énorme en Turquie. Énorme.
Donc vous cautionnez la politique de M. Erdogan et également le fait d'emprisonner des dizaines de milliers de personnes.
C'est pas lui
qui est en prison. Ça parle de justice, là.
Et puis, ce qui est important, ça m'a dit, c'est que c'est pas lui qui est en prison.
Voilà.
C'est que, je vous dis, en Turquie, c'est pas le même, comment on appelle ça, le système présidentiel qu'il y a en France. Aujourd'hui, Macron, il a tout pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Erdogan n'a pas tout pouvoir.
Il aura le 24 juin.
C'est pour ça que malheureusement,
il aura le 24 juin.
On attaque beaucoup la Turquie. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, citoyens français d'origine turque, jusqu'à il y a 5 ans derrière, on n'avait pas le droit de voter. Donc, une personne qui arrive à amener un scrutin jusqu'à 100 km de chez nous et qui nous permet de voter, je trouve que c'est la plus belle démocratie.
Quelle est vraiment la réalité du vote turc en France? Pourquoi, au fil des années, il est devenu un enjeu politique important pour le pouvoir en place? Pour en parler, nous sommes à l'université de Strasbourg, en Alsace, afin d'interroger Samim Akgönül, l'un des plus éminents spécialistes de la Turquie et notamment de sa diaspora installée en France.
Samim Akgönül, je suis enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg et au CNRS.
Monsieur Akgönül, pourquoi l'électorat AKP, l'électorat islamo-conservateur, est surreprésenté en France par rapport au vote en Turquie?
Alors, c'est lié au fonds sociologique des vagues d'immigration en France. Les ouvriers qui sont venus, ils sont d'origine rurale. D'abord, ils migrent vers des centres urbains en Turquie et ensuite, ils viennent en Europe. Et donc, ce fonds sociologique s'est reproduit ici même en immigration et il y a des nouvelles générations qui sont nées en immigration, notamment dans ces pays-là. Ces nouvelles générations sont à la fois dans une recherche identitaire vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis du nationalisme turc. Ces deux piliers de l'identité turco-islamique et non seulement reproduisent, mais surenchèrent sur ces deux identités. Les gens votent encore selon les préoccupations communautaires, selon les préoccupations religieuses et nationales.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette population-là n'a pas été suffisamment intégrée, j'emploie des gros guillemets, mais en France, et qu'ils sont encore dans des schémas, disons, turco-turcs?
Alors, ils sont beaucoup dans des schémas turco-turcs. Ils sont très bien intégrés en France, c'est-à-dire qu'ils sont dans la société française, ils contribuent à la société française, mais leur appartenance à la France étant constamment remise en question par la société majoritaire, constamment, constamment. Et il faut qu'ils donnent des gages de loyauté constants. Leur attachement à l'identité turque et à la Turquie est surreprésenté. Ça veut dire que plus ils sont délégitimés en France, plus ils se sentent attachés à des questions identitaires en Turquie. D'autant plus qu'il faut quand même souligner pour nos auditeurs que approximativement 80% des personnes que nous percevons en France comme immigrées n'ont jamais migré. Ils sont peut-être la frange la moins mobile de la société française. Ils sont nés, éduqués, socialisés en France.
Donc situation quand même complexe, monsieur Akgönül, d'autant plus que la communauté turque, on va l'appeler comme ça, pour faire simple, est fragmentée politiquement entre les Kurdes et les Turcs, religieusement avec le problème des Alevis, qui est une minorité liée à l'islam. Difficile d'analyser de manière sereine la situation.
Il y existe, comme vous venez de dire, une fragmentation ethnique. En Turquie, la majorité des citoyens turcs sont des Turcs et une minorité sont des Kurdes. Les Kurdes étant partagés dans quatre pays du Proche-Orient, bien entendu. Et cette division se retrouve en diaspora, notamment en France et en Allemagne, mais aussi dans des pays scandinaves. Cette société est également fragmentée religieusement parlant, si j'ose dire. D'abord entre les sunnites et les alévites. La majorité sont des sunnites, la minorité sont des alévites, c'est l'islam hétérodoxe. Mais également, il existe une troisième religion, si j'ose dire, qui est le kémalisme. Recep Tayyip Erdogan, comme beaucoup d'autres leaders populistes. Je pense à Viktor Orban, à Kaczynski, à Donald Trump, il y en a d'autres, surfent sur les fissures, sur les fractures. Donc, effectivement, en Europe occidentale, il y a des paradoxes sur la vision de l'intériorisation de cette population, je répète, née en France, éduquée en France, socialisée en France, et non pas immigrée. Et donc ceci sert à tous les discours populistes en disant, vous voyez, vous, ils vous refusent. Ne venez pas, restez là. Restez là, mais travaillez pour nous.
Si on s'en tient au sondage, la victoire de M. Erdogan n'est pas acquise. Est-ce que vous pensez que le vote de la diaspora peut s'avérer décisif?
Pour les élections présidentielles, même 0,5% peut avoir une influence extraordinaire, puisque lors des élections au suffrage universel, il faut 51%. Donc de ce point de vue, oui, le vote ici même peut avoir une conséquence. Cela dit, aujourd'hui, la diaspora vote. Ces urnes vont être transportées à Ankara, nous ne savons pas dans quelles conditions. Vont être dépouillés des semaines plus tard, nous ne savons pas dans quelles conditions. Donc voilà, il peut y avoir des soupçons. Il peut y avoir des soupçons. Mais, partant du postulat que tout va se passer très bien sans triche, oui, le 1% peut avoir un effet très important pour les élections présidentielles.
Ces dernières années, on a vu en France se multiplier des médias comme des web télé ou des sites internet qui traitent de l'actualité turque mais sans jamais critiquer le président Erdogan. Exemple, avec Mediaturk Info. Son responsable s'appelle Ali Gedikoglu, incontournable dans la sphère des pro-Erdogan en France. C'est lui qui a fondé le parti Égalité et Justice, soupçonné d'être lié à l'AKP, et qui a présenté des candidats aux législatives françaises l'an dernier. Il est aussi le président du COGEP International, une ONG basée à Strasbourg qui a appelé l'an dernier à voter pour le oui au référendum qui renforce les pouvoirs du président turc. J'ai tenté de joindre à plusieurs reprises Ali Gedikoglu par courrier ou par téléphone, sans succès. Si je n'ai pas réussi à rencontrer Ali Gedikoglu, j'ai croisé la route d'un homme qui le connaît bien. Il est responsable d'une salle de cinéma dans la capitale alsacienne.
Farouk Güneltay, né le 19 mai 1949, directeur programmateur de l'Odyssée depuis 1992.
Monsieur Güneltay, la justice française vient d'ouvrir une information judiciaire. C'était il y a quelques jours, après une plainte que vous avez déposée contre monsieur Ali Gedikoglu, qui est l'un des chefs de file ici à Strasbourg, des partisans du président Erdogan. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?
Écoutez, en novembre 2016, sur Facebook, on a vu une déclaration de ce triste individu en turc qui disait que des gens comme moi devaient être mis hors circuit et que nous représentions l'ancienne Turquie alors qu'eux représentaient la Turquie nouvelle, démocratique, etc. c'était une menace à peine voilée. Nous avons porté plainte, l'instruction est close et je ne connais pas à ce jour les décisions de la juge qui a mené l'instruction. D'autre part, en novembre 2017, il y a un journaliste qui vit en exil, qui est célèbre, qui s'appelle Jan Dündar, et que nous avons soutenu ici à l'Odyssée en montrant des films de lui, notamment sur les livraisons d'armes aux groupes djihadistes de Turquie en toute illégalité par le gouvernement turc. Et le lendemain, on a pris un café dans un café de Strasbourg et soudain, à la fin, un individu prend son portable et commence à injurier Jan Dündar en lui disant que c'était un traître à la patrie. Et il filme en même temps, ce que je n'avais pas remarqué sur le moment. Et une heure et demie après, cette image était diffusée sur toutes les télévisions généralistes pro-Erdogan en Turquie.
Donc ce n'est pas la première fois que vous faites l'objet de menaces, d'intimidations, voire d'agressions de la part de partisans d'Erdogan, des gens de l'AKP.
Je pense que ce ne sont pas des gens proches des partis qui s'opposent à Erdogan. C'est des gens qui ont fait déjà des esclandres, voire des incidents, ici à l'Odyssée, parce que l'Odyssée est engagée dans une politique de programmation, de défense de la diversité culturelle, mais aussi des droits de l'homme, au point que nous bénéficions d'une protection policière quand nous faisons des événements de ce genre. Alors, que ce soit des pro-Erdogan, à mes yeux, ne fait l'ombre d'aucun doute.
Monsieur Gunaltay, comment vous vivez ce qui est en train de se passer dans votre autre pays, la Turquie ?
La Turquie est aujourd'hui dans une position de souffrance. Il y a, il faut le dire, c'est une prison pour journalistes. Plus de 150 journalistes sont en prison. Il y a 50 000 personnes qui sont en prison après le coup d'État manqué du juillet 2016. Il y a, est-ce qu'on le sait en France, 69 000 étudiants qui ont été emprisonnés. Certains ont été libérés, mais 69 000 au total, tout simplement parce qu'ils exprimaient un droit démocratique de manifester, de protester contre ceci ou contre cela. Il y a 150 000 personnes qui ont été révoquées. Il y a une situation de pouvoir absolu de l'arbitraire et de dictature autocratique aujourd'hui en Turquie, qui s'accompagne d'une violation quotidienne, permanente des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs, et donc qui est tout à fait incompatible avec les valeurs les plus élémentaires de l'état de droit et de la démocratie.
Est-ce que vous êtes retourné en Turquie ces derniers mois, ces dernières années ?
On m'a signalé, les services de renseignement français, que je faisais partie de la liste noire, si vous voulez, ce qui revient d'ailleurs à faire de l'espionnage entre nous, qui a été envoyé à Ankara. Et là, je pense pour ma part qu'il est temps que les dirigeants en France ouvrent les yeux, et c'est plus par négligence, paresse ou cynisme qu'on a laissé croître en France une permissivité dont je souhaite vraiment que dorénavant il y soit mis fin.
D'après l'ambassade de Turquie, 330 000 ressortissants turcs sont inscrits sur les listes électorales et sont donc appelés aux urnes dans plusieurs consulats à Strasbourg, Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux ou Nantes. Depuis qu'ils sont autorisés à participer à ce scrutin, ça fait pas très longtemps, depuis quelques années seulement, les Turcs de France votent majoritairement pour l'AKP, le parti du président. Mais il existe en France une opposition politique assez bien organisée qui tente de mobiliser contre Tayyip Erdogan. Exemple ici dans l'Essonne, au sud de Paris, sur un marché, à Ris-Orangis. Bonjour.
Bien, enchanté.
Enchanté, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Alors, je suis Berfine, j'ai 25 ans et je suis étudiante et je fais partie de l'organisation de la Fédération des associations des travailleurs issus de l'immigration de Turquie.
C'est une organisation de gauche ?
Exactement, c'est une organisation de gauche.
Bien à gauche.
Bien à gauche, chez vous. C'est vrai que c'est une organisation bien à gauche.
Et qui est contre le président.
Oui, voilà.
Et qui est en place en Turquie, oui, M. Erdogan.
Qui est totalement contre le président qui est en place depuis pas mal d'années en Turquie.
Le candidat du HDP, il est en prison.
Oui, Demirtas, c'est le nom
de ce candidat.
Il y a une forte population qui le soutient, vu que le contexte, puisqu'il s'est retrouvé en prison, on ne sait pas pour quelle raison, alors qu'il était député. Donc on ne peut pas voir ce genre de choses en France alors qu'il est député. On lui a enlevé l'immunité. Et donc Erdogan, il a tout fait pour enlever cette immunité-là, justement pour faire en sorte que les personnes qui s'opposent à lui soient en prison. Que ce soit les journalistes, que ce soit des écrivains, que ce soit toute personne qui veut montrer la vraie personnalité de Erdogan se trouve en prison à l'heure actuelle.
Bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie. Ça va, tout le monde va bien.
Tout le monde va bien.
Tout le monde va bien,
oui. Il y a une camarade à nous qui est en train d'expliquer justement le tract pour aller appeler à voter le HDP.
Donc là, ça parle en turc. Hein.
Oui, moi, généralement, ça parle en turc. Hein. Il faut bien comprendre.
Elle n'a pas l'air convaincue, cette dame. Hein.
Et là, elle est en train de dire, vous savez ce qu'il faut faire justement pour avoir une nouveauté, c'est aller voter, tout simplement. Et la dame qui s'oppose, elle dit, bah, ceux qui veulent aller voter, ils ont qu'à aller voter. Donc elle n'est pas du tout convaincue à aller voter. Quoi.
Bonjour.
Bonjour.
C'est difficile, là, vous étiez en train d'essayer de convaincre cette dame.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous disait alors?
Je suis nationaliste, oui. Je ne peux pas changer depuis que je suis tout petit, juste comme ça. Ils pensent qu'être nationaliste, c'est quelque chose de bien.
C'est ça.
Parce qu'eux, ils sont éduqués autrement. Ils ne savent pas démocratie, c'est quoi. Avoir autre chose, c'est quoi, ils ne savent pas.
Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez discuté là avec ces dames.
C'est pour l'élection en Turquie.
Exact, oui. Et vous êtes plutôt, si je peux me permettre, hein, vous êtes plutôt pour le président ou plutôt vous contre ou vous posez la question?
Je ne veux pas revoir pour l'élection en Turquie parce que je vais rester ici. Là.
Ouais.
Je ne veux pas revoir pour l'élection en Turquie, je m'en fous.
Vous en foutez?
Ouais.
Pourquoi vous en foutez?
Ouais, je habite ici, moi en français ici, là, à l'école ici. Là.
Ouais, vos enfants sont à l'école, vous faites votre vie ici, quoi.
Ouais, ils font ici, là.
La Turquie, c'est derrière vous.
Ouais, c'est moi. Si je ne veux pas revoir pour la Turquie, je retourne à la Turquie.
Demirtaş ben değilim. Demirtaş sizsiniz, siz. Bunu unutmayın. Demirtaş sizsiniz.
Demirtaş da gönlüm ama.
Bonjour madame, comment ça va? Mais je vous en prie. Est-ce que vous allez aller voter, alors, pour ce scrutin?
Oui.
Oui.
Bon. Oui, cette semaine, normalement, aujourd'hui ou demain.
C'est important pour vous de faire ce geste citoyen? Oui.
Oui, c'est important.
Pour quelle raison?
Désolée, je ne sais pas bien parler français.
Je vous en prie. Si Erdogan il gagne encore cette élection-là, qu'est-ce qui va se passer?
Il va gagner, je sais qu'il va gagner. Ça, c'est sûr. On ne peut pas dire qu'il ne gagnait pas. Ça, c'est sûr, certain. Il gagne, mais comment il gagne?
Ça va être quoi l'avenir du pays, alors?
Je ne sais pas.
Elle s'inquiète, elle pense qu'elle a peur de dire ce qu'elle pense. Du coup. Non, non.
Bah, nous, on va aller au
Turquie. Il y a cette inquiétude aussi
De
trop parler, voilà. Elle a peur.
Parce que lui, il regarde toutes les choses. Facebook, toutes les choses. WhatsApp. Il y a quelqu'un en Europe aussi. Hein. Il est regardé. Si vous allez en Turquie, il est attrapé. Si, il m'a attrapé. J'ai 4 enfants. J'ai une fille handicapée. Non, mais non.
Vous avez peur d'être visé à votre retour en Turquie par les autorités?
Tout le monde, c'est comme ça.
Parce que vous parlez à la radio.
Tout le monde, il est comme ça. Il a peur de partager quelque chose.
Sur voilà. Les réseaux sociaux,
on fait attention. Oui, voilà, les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis kurde. Je suis kurde, origine kurde.
Mais vous allez quand même aller voter.
J'espère que ça passe bien. Pour tout le monde. Merci beaucoup.
Berfine, on entendait cette dame qui disait qu'elle avait peur un peu de s'exprimer, d'en dire trop finalement. Vous êtes surveillée, c'est ce qu'elle voulait dire?
C'est ça.
Via les réseaux sociaux?
Oui, c'est exactement ça. On a constaté depuis un bon moment que Erdogan surveillait énormément les réseaux sociaux. Du coup, dès que des personnes qui s'opposaient à lui et qui montraient la vérité, ça partage très rapidement. Et du coup, les personnes, quand ils vont en Turquie, ils ont peur de se faire arrêter parce qu'ils ont publié quelque chose qu'ils estiment pour eux qui est correct, mais pour Erdogan qui ne l'est pas. Du coup, il y a une énorme inquiétude à ce niveau-là de s'exprimer.
Quand on retourne au pays, il faut clôturer ses comptes Twitter, c'est Facebook, faut faire attention vraiment.
Voilà. Non, mais vraiment. Mais moi, je fais très attention à ça. Hein. Quand je me déplace en Turquie, je fais en sorte de vraiment me déconnecter de tous les réseaux sociaux pour pas qu'on voit un petit détail que j'étais opposée à Erdogan. Il y a une emprise comme ça en Turquie. C'est la réalité.
L'influence du pouvoir turc sur ses ressortissants à l'étranger peut également s'exercer dans certains lieux de culte implantés en France. L'islam comme vecteur politique en quelque sorte. Un phénomène encore marginal, mais bien réel. Pour en parler avec nous, Bernard Godard, spécialiste de l'islam, ancien consultant du Bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Bonjour Bernard Godard.
Bonjour.
Vous êtes chercheur Bernard Godard, spécialiste de l'islam, ex-chargé de mission au Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur. Question directe, simple, l'AKP ou ces faunés pratiquent-ils une espèce d'entrisme religieux via les mosquées ou les associations en France ?
Alors, la Turquie, qui se dit état laïque, mais pas du tout comme on peut le penser, a créé ces Kemal Atatürk, à partir des années 20, un organisme public de gestion des cultes, c'est-à-dire des relations avec les cultes, qui est une direction, qui est un quasi-ministère, qui s'appelle la Diyanet, est installée à Ankara, et effectivement, cet organisme continue dans la tradition de l'Empire Ottoman à gérer le culte musulman de manière très concrète, très précise, très directive, ça veut dire prendre en main les mosquées, dicter des prêches, fixer à l'ensemble des dates pour les rituels, enfin bon. Donc du coup, elle s'est implantée petit à petit, d'abord en Allemagne, en France, elle est venue dans les années 90, et effectivement, ce sont des gens, des fonctionnaires de l'organe d'Ankara qui sont détachés en France, et qui regardent un petit peu comment fonctionnent ces mosquées, mais avec l'accord des intéressés. C'est pas des gens sur lesquels s'exerce une pression. C'est comme ça, c'est normal. On se dirige vers l'Azitib à partir du moment où on a besoin, et surtout du magistère religieux. Alors, le magistère religieux qui est exercé par les imams, et ces imams sont détachés de la Turquie en France. Ils sont au nombre de 150.
Oui, donc l'Aditib gère les mosquées turques en France,
oui.
En tout cas la plupart d'entre elles,
oui.
Et ces responsables religieux sont envoyés directement par Ankara, voilà. Et formés en Turquie.
Voilà.
C'est comme ça que ça se passe.
Tout à fait.
Alors, vous êtes aussi l'un des inspirateurs de la création du CFCM, oui. Le Conseil français du culte musulman, qui a été créé il y a 15 ans maintenant.
Oui.
Aujourd'hui, à sa tête, un franco-turc depuis un an, c'est la première fois que, oui. Que c'est arrivé, monsieur Ahmet Ogra. Mmh. Qui est ce monsieur ?
Ah ben c'est quelqu'un qui était auparavant, avant d'être au poste où il est, un cadre français de l'AKP. Hein, donc, même il avait des fonctions au niveau européen, et du coup, quand l'AKP, si vous voulez, elle est là, c'est tout à fait illustrateur, a voulu être beaucoup plus intrusif dans la gestion du culte, il a enlevé le président du conseil de manière assez expéditive, et il a mis Ahmet Ogra à la place, avec une certaine équipe. Alors, il y a une résistance des quelques cadres qui finalement ont dit, mais c'est pas possible, c'est un coup d'État, etc. Mais bon, cette confusion entre l'AKP et DITIB, si vous voulez, ça ne les choque pas a priori. Quoi.
Monsieur Godard, vous dites que le président du CFCM, ici en France, a été placé par l'AKP, monsieur Ogras ?
Oui, tout à fait, oui.
S'il y a un questionnement sur les imams turcs en France, c'est parce que dans d'autres pays, juste à côté, en Allemagne ou en Suisse ou en Suède, il y a des procédures judiciaires, des enquêtes qui sont en cours parce que certains responsables religieux auraient été recrutés par les services secrets turcs pour espionner les opposants politiques à Erdogan.
Oui, alors... Bon, c'est vrai que la population des imams, oui, c'est un vivier tout à fait naturel pour les services turcs de recruter. C'est vrai qu'ils le font systématiquement. On va pas dire que tous les imams sont des agents des services. On est en présence d'un mélange de nationalisme et de religieux. Par exemple, par le réseau des mosquées, on s'est aperçu que, effectivement, lors de la mobilisation du vote de la loi sur le génocide arménien, bon, il y avait eu une mobilisation. Un certain nombre d'imams sont partie prenante de tout ceci. circuit, oui, bien sûr. Oui.
Il n'y a pas des prêches politiques dans les mosquées françaises en faveur d'Erdogan?
Non, mais il peut y avoir une manière de présenter les faits sans que ce soit un soutien explicite, en disant il y a la bonne formule pour défendre l'islam, il y a la bonne formule par rapport aux agressions.
Diluée dans la théologie.
Ben oui, bon, une phraséologie qui suggère, c'est assez subtil, oui, quand même.
C'est pour ça que certains disent qu'on laisse un peu faire, que les autorités françaises ne mettent pas le nez dedans, comme vous dites, et que finalement, il faudrait peut-être surveiller un petit peu plus.
En fonction d'effectivement qui sont les principes laïcs, on ne se mêle pas de la formation des imams. Enfin, on est censé ne pas s'en mêler. Voilà.
Mais Ankara également, d'ailleurs, c'est pas vraiment intéressé au CFCM pendant très très longtemps. Depuis quelques années, en fait, que la Turquie a compris l'intérêt et l'enjeu politique que ça pouvait constituer.
C'est vrai, vous avez raison, c'est que on n'a pas pris les responsables musulmans, les autres fédérations n'ont pas pris la mesure de la chose. C'est-à-dire que celui qui allait arriver à la tête du CFCM l'année dernière, par exemple, ce n'était plus un représentant même de la Diyanet ou de tissu associatif musulman turc, c'était carrément quelqu'un de l'AKP.
Interception sur France Inter.
Ahmed Okra, président du Conseil français du culte musulman, père de deux enfants, marié, chef d'entreprise.
Alors, quand vous avez été élu il y a un an, hein, tout juste, président du CFCM, ça a fait polémique parce que on vous reproche votre proximité avec le président Erdogan. On considère que vous êtes un ancien cadre de l'AKP.
On peut pas dire les choses à moitié. J'ai eu certaines responsabilités avec certains mandats à l'époque, et c'est fini tout ça. J'ai jamais eu de responsabilité politique dans un parti qui est de l'AKP. J'en ai jamais eu. Je défie toute personne sur ce sujet-là.
Vous avez créé l'UETD, par exemple.
J'étais à l'époque président fondateur de l'UETD, tout simplement.
L'Union des démocrates turcs européens, qui est un mouvement politique.
Donc, à l'époque, qui était un mouvement de lobbyistes pour permettre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, tout simplement.
Mais c'est vrai que vous le savez, hein, votre parcours interroge. Vous n'êtes pas un théologien,
comme aucun
vous êtes un businessman, vous avez une agence de voyage, donc c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique. Vous le concédez.
Oui, bien sûr, tant mieux. Et tant mieux, c'est ça qui fait la richesse. C'est pour ça que je remercie tous les membres du CFCM d'avoir accepté ma nomination et d'avoir accepté, je dirais, cette confiance. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de Français de confession musulmane. Aujourd'hui, elle n'est pas représentée par que des religieux ou des théologiens. C'est la société civile.
Le fait que vous ayez milité politiquement pour l'AKP...
Je n'ai pas insisté en disant que j'ai milité pour l'AKP. J'ai jamais milité pour l'AKP. Autrement, vous l'aurez su. Il ne faut pas l'inventer. J'étais président d'une association, président fondateur, qui avait le but, je reprécise, de favoriser l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne, tout simplement. Mais ne faites-me pas dire ce que je n'ai pas dit et ce que je ne suis pas, surtout.
Mais vous avez quel rapport avec les autorités turques religieuses? Vous êtes président français du CFCM et vous devez articuler aussi des relations avec la Turquie. Comment vous faites? Ça ne doit pas être évident quand même.
Non, premièrement, je n'ai pas de relation pour l'instant. Je n'ai pas eu de relation en tant que président du CFCM avec les affaires religieuses de Turquie. On n'a pas eu. Et le jour qu'on aura, je dirais, ce sera des relations tout simplement entre partenaires français et turcs, tout simplement.
Vous n'avez pas de relation avec la Turquie?
Pas de relation avec des affaires religieuses.
Donc vous n'avez pas de rapport avec le Diyanet, par exemple, le ministère des Affaires religieuses en Turquie?
J'ai pas de rapport en tant que président du CFCM. Je peux avoir des connaissances, je peux avoir des amis, c'est logique, mais j'ai pas de partenariat professionnel ou associatif avec le Diyanet.
Quand on est, après j'arrête de vous embêter, citoyen français et également turc, je ne sais pas si vous avez la double nationalité, j'imagine que oui. Comment vous regardez, en tant que président du CFCM, l'élection du 24 juin en Turquie?
Je ne la regarde pas du tout, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment concentré sur la préparation de l'Iftar d'aujourd'hui. C'était pas facile, ce n'est pas ma priorité. Deuxième chose, j'ai un mandat aujourd'hui. Donc je dois respecter mon mandat, qui c'est d'être président du CFCM, de représenter tout le monde, et surtout d'avoir cette noble, mission de préparer l'avenir. Tout simplement.
Donc pas de commentaire sur l'élection du 24?
Ah franchement, pas de commentaire, aucun commentaire.
Merci Monsieur Ogra.
Merci.
Mais moi, on n'avait pas dit que vous alliez m'attaquer sur ces sujets-là.
Ah, je vous ai attaqué carrément?
J'étais pas prêt.
Vous attaquez sur ce sujet-là? Non, je peux pas attaquer, il y a un bogart, un salon, c'est...
presque ça. Ils m'ont pas dit ça.
Non,
pas...
Attends, ça.
Attends, vous enregistrez, il est en train de m'insulter. Il est en train de m'insulter là. Vous le connaissez?
Oui, vous êtes toujours vice-président du CFCM?
Délégué général.
Délégué général.
Président de l'Observatoire. Voilà, c'est vrai que la Turquie, c'est un petit peu spécial. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ograd, il est président du CFCM. Il est arrivé comme ça parce que les élections ont voulu que ça soit comme ça. Moi, j'étais contre. Ils le savent. Ils ont fait une présidence tournante. Mais il faut assumer. Il faut avoir le courage d'assumer. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas l'AKP. Voilà. Moi, j'étais à l'époque au niveau de l'amicale des Algériens. En Algérie, j'étais responsable de la fédération du FLN. Mais j'assume mes responsabilités. Pardon, je ne dis pas non. Il faut avoir le courage de dire j'ai fait ça, je le regrette. Ou je ne le regrette pas, ou je suis sur la bonne voie, ou je me suis trompé, mais il faut assumer ses responsabilités. Toute personne qui n'assume pas ses responsabilités, pour moi, c'est un lâche, il n'a pas le courage de ses opinions.
Merci, M. Zécry.
De rien, au revoir.
Nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement, et ici se prépare une initiative festive qui s'appelle la Petite Istanbul. En fait, le 10e arrondissement, ici où on se trouve rue de Metz, est un quartier avec une forte communauté de franco-turcs. Et nous avons rendez-vous avec l'un des instigateurs, l'un des animateurs de cette journée. Il est membre de... Alors qu'un ballon vient d'exploser, il est membre de l'ACORT, l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie.
Ümit Metin, coordinateur de l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, l'accord qui existe depuis 37 ans, qui est une association de lutte dans le mouvement de lutte de l'immigration et fait des actions de solidarité vis-à-vis des gens qui sont réprimés en Turquie.
Bonjour Ümit Metin, comment ça va?
Ben ça va, on est dans la préparatif des dernières minutes du début de la petite Istanbul en fait, qui va commencer à 14h. On est en train d'installer tout pour accueillir aussi bien les associations que le public, qui nous espérons seront au rendez-vous cette année aussi.
Comment l'influence de l'AKP et d'Erdogan se traduit en France ici, d'après vous?
Elle se traduit par les pouvoirs étatiques. Sur les associations. Parce que les originaires turcs qui vivent en France, ce sont des gens qui vont en Turquie, qui ont de la famille en Turquie. Et quand on voit que pour un simple tweet ou un simple truc, les gens peuvent se faire arrêter, donc les gens ont peur de s'exprimer. Les gens, ils savent qu'il y a des fonctionnaires, il y a dans les mosquées des gens qui contrôlent. Donc il y a en France aussi, par différents moyens, une pression, un contrôle qui se passe. Les associations sont convoquées pour des réunions au consulat. Et en même temps, il y a tout ce côté intimidation. Et de l'autre côté, tous les moyens mis en œuvre d'aller avec des cars amener les gens voter, prendre en charge leur déjeuner, tout ça, qui est dépensé avec l'argent de l'État pour l'AKP. Donc il y a cette atmosphère-là qui est là. Et ce qui est important, c'est que dans le contexte migratoire, les originaires turcs se construisent une identité à travers la nation, la religion et Erdogan. Et ça dépasse maintenant les originaires turcs. Ça touche aussi les quartiers populaires, avec notamment les jeunes issus d'immigration maghrébine qui voient en Erdogan un leader mondial du musulman contre l'islamophobie, contre l'Israël, contre l'Occident. Et c'est l'image qu'ils veulent véhiculer.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Je m'appelle Zeynep et je travaille pour l'association ACORT. Je suis médiatrice en direction des femmes victimes de violences.
Comment vous appréhendez-vous en tant que franco-turc l'élection qui pourrait réélire le président Erdogan?
C'est assez difficile parce que nous ne vivons pas en Turquie, nous vivons en France. Donc il y a une distance et il y a un sentiment de quelque chose de perdu loin de vous. Et que vous ne pouvez pas intervenir directement. Et donc les élections, c'est le seul moyen de nous exprimer. Et donc on a ce droit, donc on l'utilise, on va voter. Et il y a ce sentiment que quelque chose périra et ne reviendra plus.
Vous avez l'impression que ça peut être vraiment décisif pour votre autre pays, pour la Turquie?
C'est le sentiment que j'ai, c'est le sentiment que... Plusieurs personnes qui ont été obligées de quitter la Turquie ces dernières années ont. Et bien évidemment, c'est le malheur de certains et le bonheur des autres. Je comprends qu'une partie de la population en Turquie qui vote pour Erdogan ont leurs raisons et sont finalement contents de leur vie. Et c'est pour ça qu'ils continuent à soutenir Erdogan. Sauf que pour les gens qui connaissent avant Erdogan, et comment c'était, bon, c'était pas le bonheur non plus, mais il y avait quand même une lueur, une espérance, disons, pour une démocratie réelle. Et la lutte existait et qu'il y avait ce sentiment que les choses pouvaient aller mieux et en termes pour la démocratie et pour l'égalité de tous. Malheureusement, maintenant, je ne vois plus cette espérance, cet espoir.
Est-ce que vous pensez que, ici, en France, les Français de Turquie, appelons-les comme ça, sont divisés à propos de ce sujet ?
Et la division est réelle. La division est réelle en Turquie et la division est réelle ici, malheureusement.
Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois, d'avoir des difficultés à discuter, à communiquer justement avec quelques-uns de vos compatriotes à cause de ce problème politique ?
Quand je vous dis qu'on est... Il y a un clivage, il y a réellement un clivage. Autour de moi, il n'y a pas de gens de AKP.
Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire, toute ma famille, enfin...
C'est pas possible pour vous de discuter avec des gens de l'AKP.
Bien évidemment, mais il faut qu'il y ait une touche, quoi, qu'on se réunisse et qu'on parle, quoi. Et, mais bon, ça, c'est plus possible, quoi. Chacun est dans son côté. Et voilà.
Maintenant, nous allons passer encore à la musique, mais il y aura d'autres choses à dire tout à l'heure. Avec le groupe Zazlouz.
C'était Élections turques, une diaspora sous influence, un reportage de Nasser Maggi, mixage Benjamin Orgeret, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Coe. À la semaine prochaine.